nationale. Les visiteurs du jour. Hervé Guillemot.
Bonjour à tous, et oui, vous l'entendez au fil des journaux de RFI, mauvaise pioche pour Ryu. Il sauve le CAM, mais il dématte, fin de course pour le navigateur, mais enfin tout de même, hein, le CAM, Ryu, le Cléache ou encore Guillemot, belle partie de solidarité entre concurrents, non?
Et à partir du moment où l'un d'entre eux est en danger, plus rien ne compte que de le sauver. Et en mer, ça arrive souvent, hein, il y a très souvent des gens à les sauver, tout le reste passe au deuxième plan.
Et oui, vive les marins, histoire du jour d'Anne-Claire Bulliard dans une petite heure. Vive le cinéma aussi, en du côté d'Agadir. Et puis dans ces périodes de soldes, vivent les consommateurs, quoique des consommateurs de plus en plus coproducteurs de ce qu'ils achètent, au grand bénéfice de l'entreprise. Le travail du consommateur, dossier du jour avec la sociologue Marianne Dujarrier en deuxième demi-heure. Enfin, vive la scène et le rire, enfin à condition de faire le bon choix. Pour cela, criticcomique.com ou bien un one-man site pour les one-man show. On en reparle dans quelques minutes. En tout cas, bienvenue à tous, musique.
Da
Dire Straits, visiteurs des visiteurs. Et pour enterrer ces derniers visiteurs de la semaine, un joli petit coin de terre vierge. Et oui, cela existe encore. Et c'est d'ailleurs le titre de l'article que publie cette semaine Courrier International. Bonjour Eric Glover.
Bonjour Hervé.
Vous êtes le responsable du département en sciences de l'hebdomadaire. Alors ce coin de terre vierge se situe au Mozambique.
Absolument, c'est se situe au Mozambique, c'est se situe au mont Mabou pour être très précis, et ça a été découvert en 2005. En 2005, ça a été découvert de manière assez amusante, en fait, grâce à un logiciel qui s'appelle Google Earth, qui est un logiciel de Google, qui récupère, on va dire, des images satellites, des images aériennes, qui les compile et qui, grâce à ça, vous donne l'impression de pouvoir parcourir la Terre et puis de zoomer sur des lieux, etc.
Et alors, comment a-t-on pu déterminer donc qu'il s'agissait d'une zone, effectivement, un territoire vierge?
En fait, les chercheurs étaient en train d'utiliser ce système sur plusieurs coins, puis il y en a un qui s'est rendu compte que il y avait une espèce de tache verte, quelque part, verte, qui n'avait pas l'air d'avoir du tout été répertoriée. Or, il se trouve que celui qui va devenir le chef de l'expédition qui est allé au Mont Mabou, qui se nomme Jonathan Timberlake, eh bien, Monsieur Timberlake a passé une vingtaine d'années de sa vie dans cette région, à explorer tout ce qui est plantes, animaux dans ce coin. Et en regardant ça, il s'est dit, mais moi, je connais pas ce coin-là. Alors, il regarde, il s'aperçoit que c'est 80 km carrés de forêt, en fait. Donc, en gros, 9 km sur 9 km, c'est pas bien grand non plus. On envoie quelqu'un qui est un écologiste qui est installé dans la région, Julian Baylis, qui va sur place et qui dit, effectivement, il n'y a pas de traces. Les gens n'ont pas l'air de connaître. C'est complètement vierge.
Et alors, trouver effectivement un coin de territoire vierge sur la planète, non seulement ça fait rêver, mais ça fait d'autant plus rêver que l'on y découvre, et du coup, évidemment, des espèces de végétaux ou d'animaux jamais répertoriés jusque-là.
Et voilà, c'est exactement ça. Là, on met en place une expédition. Alors, c'est quelque chose, l'expédition, hein. C'est une trentaine de chercheurs, 70 porteurs, des chercheurs venant du Royaume-Uni, mais aussi du Mozambique, du Malawi, de Tanzanie, donc des locaux et des chercheurs britanniques. Et sur place, on découvre de nouvelles espèces. Alors, un petit caméléon qui fait 1 cm de long, une sorte de vipère qui, elle, est une grosse vipère de presque 2 mètres de long qui ressemble un peu à la vipère du Gabon, un animal extrêmement dangereux, des papillons, des oiseaux, énormément de nouvelles espèces de plantes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que des nouvelles espèces, on n'en découvre pas beaucoup. On a un certain nombre d'espèces répertoriées qui sont dites décrites, c'est-à-dire que on fait en sorte de les passer dans le savoir commun tous les ans. Il y en a à peu près 2000 dans ce cas-là. Mais des toutes nouvelles espèces, c'est rare. Donc c'est assez extraordinaire comme découverte.
On a plutôt tendance à parler des espèces qui disparaissent, et ça, elles sont évidemment légion. Alors votre camarade Timberlake, il est très enthousiaste. Hein. Il y avait des faucons pèlerins, des papillons de nuit volant dans tous les sens. C'était fantastique. L'article est effectivement assez joyeux de ce point de vue-là. Alors il le reconnaît, hein, ce ne sont pas des piliers de notre planète, mais maintenant qu'on sait qu'elles existent, de quel droit pourrions-nous les détruire? Et ça, c'est tout de même la question qui est de conclusion, mais qui est la question fondamentale.
Absolument. C'est-à-dire que, en gros, avant, comme il le dit, on aurait pu détruire cette zone sans le savoir, le couper pour en faire du bois brûlé ou pour en mettre des champs, mais parce qu'on savait pas l'importance que ça. Mais maintenant qu'on le sait, ça serait plus un accident, ça serait un choix conscient. Et là se pose la question de qu'est-ce que l'on doit faire dans une telle circonstance avec cette nouveauté, surtout que cette expédition, on n'a pas eu le temps de faire le tour complet de ce petit carré de 9 km sur 9 km. Une autre expédition va certainement se mettre en place et découvrir d'autres espèces, car tout n'a pas été trouvé, ça c'est à peu près sûr.
Et alors le rêve risque, à toutes les chances, plutôt de se poursuivre, puisque grâce effectivement à Google Earth, il sera peut-être possible de découvrir d'autres coins comme ça de territoires vierges, par exemple en Papouasie-Nouvelle-Guinée, grâce à Google Earth, hein, c'est bien ça?
Tout à fait, Papouasie-Nouvelle-Guinée ou Mozambique encore, hein, il y a beaucoup de zones, notamment au nord du Mozambique, qui sont complètement inexplorées, très très peu connu, et les chercheurs disent on va pouvoir faire ça. Alors c'est assez extraordinaire parce qu'autrefois des gens comme Humboldt ou autres, quand ils sont allés découvrir le monde, et ils se déplaçaient de partout. Ouais. Et aujourd'hui, les gens, ils découvrent le monde avec un ordinateur assis devant leur machine, avec juste un outil qui leur permet de dire à quel endroit sont les choses encore inconnues. C'est assez extraordinaire, juste Un retournement des choses, je dirais.
Oui, oui. Ou bien alors avec Courrier International dans les mains, puisque c'est à lire cette semaine. Donc, un coin de terre vierge, ça existe encore. Eric Glover, excellente fin de semaine à vous. À bientôt.
À vous aussi. Au revoir. À bientôt.
RFI, Radio France Internationale.
Terzi sur RFI, visiteur au pluriel point jour @RFI.fr.
Moi, mes parents sont étrangers, ils sont algériens, et je crois que je suis le seul fils d'Algérien qui ait hérité d'une tête de Portugais. Et d'un corps de Turc. Moi, mes parents, pour moi, c'est le couple modèle. Quand mon père a acheté ma mère dans les années 60, mon père avait 25 ans, ma mère 20, de moins. Mais franchement, quand je vois mes parents, je suis un petit peu en admiration. Vous imaginez, vous, 40 ans de mariage, et ils n'ont jamais pensé à divorcer. Ma mère a pensé au suicide, au meurtre, mais jamais au divorce. Mais de nos jours, ça n'existe plus des histoires comme la leur, parce qu'avant, c'était l'homme qui choisissait sa femme. Et la femme priait pour que son mari ne ressemble pas à un alien. Non, moi c'est vrai qu'on me dit souvent tu fais pas arabe en fait parce que j'ai les yeux bleus, je tiens ça de mon père. Ma mère, elle a les yeux pochés et elle aussi elle tient ça de mon père.
Julien Barré, bonjour.
Bonjour.
Bon, ce n'est pas votre sketch, hein. Je tiens tout de suite à le préciser. Il s'agissait d'un extrait du sketch de...
Du conte de Bouderbala.
Oui, c'est sympa.
Un artiste qui, à un moment, a traîné un peu avec le Jamel Comedy Club.
Mm-hmm.
Et qui représente le stand-up, un mouvement d'humour, quoi, qui est très, très présent en ce moment en France, très à la mode depuis quelques années, mais qui en fait remonte à...
C'est autre chose que le one-man show, hein.
En fait,
c'est un avatar du one man show, on va dire.
Le one man show, dans une sorte de définition qu'on pourrait en donner, c'est un comédien qui incarne une série de personnages séparés par des noirs. Des noirs, c'est le noir dans la salle.
Ouais.
Du stand-up, c'est un comédien ou quelqu'un qui parle directement au public avec un effet comme ça de spontanéité. Mmh. Il parle éventuellement dans un bar avec du bruit et raconte des blagues, des vannes en flux continu comme ça, sans incarner des
personnages.
C'est
ce que les Américains faisaient il y a une cinquantaine, il y a une, je veux dire une vingtaine ou une trentaine d'années.
Ça vient des États-Unis.
Ça vient des États-Unis, effectivement. Alors, ce fantaisiste, cet humoriste, cet homme du stand-up, on peut le retrouver sur votre site, qui est le premier site indépendant consacré à la critique de la scène comique, criticomique.com. Alors, je vais faire mon humour aussi à moi. C'est un one-man site pour les one-man shows.
Oui, c'est effectivement, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça. En fait, je suis pour l'instant seul à écrire. En fait, je voudrais faire valoir le fait que ça fait 5 ans que je passe la plupart de mes soirées à aller voir du théâtre. Donc, en tant que journaliste, j'ai commencé pour un magazine début 2004 qui s'appelait Zurban, qui n'existe plus. Mmh, et depuis depuis septembre 2007, je fais ça pour le site internet du Pariscope. Donc, je vais voir tous les spectacles, quasiment tous les spectacles comique, one-man show, stand-up, dans les petites salles où peu de journalistes vont.
Et alors qu'ils n'étaient pas finalement si ignorés que cela. Pourquoi cette nécessité tout d'un coup de leur consacrer un site? Parce que sur ce site, il n'y a effectivement que pratiquement ce type de fantaisiste. Hein. On ne trouve pas toute la grosse cavalerie classique.
La plupart des journalistes vont voir les grands spectacles des grands humoristes connus et se déplacent pas dans les petites salles où il y a 5-10 personnes et voient des intermittents des spectacles, des artistes comme ça qui sont là. Mm-hmm. Et qui sont dans des mini théâtres au demeurant tout à fait charmants où il y a parfois peu de gens dans le public et souvent il y a des talents inconnus qui sont là. Mm-hmm. Et qui balancent des blagues, des vannes, des histoires, parfois de l'absurde. Ça va du one man show au conte philosophique au stand-up pur et dur.
Mais vous vous sentez plus comme un défricheur au fond de talent, un dénicheur de talent. Votre site est plus pour répertorier tout ce qui se fait pour être un petit peu une sorte de tremplin pour ces gens-là. Ou bien alors, malgré tout, vous faites réellement de la critique, c'est-à-dire ça c'est bon, ça c'est pas bon. Bon, celui-là vous faisait rire, mais l'autre ne vous fera pas rire.
Eh bien les deux, cher capitaine. En fait, non seulement il s'agit de dénicher des talents inconnu, et surtout je voudrais inaugurer très modestement ou très prétentieusement la critique comique. Il existe
alors, définition
France...
de la critique comique.
Alors c'est pas la critique qui fait rire, ça ce serait une autre piste intéressante à défricher.
Il faudrait le talent d'un humoriste.
Voilà, je pense pas l'avoir. Enfin, il faudrait que je travaille beaucoup. Je voudrais considérer sérieusement un genre qu'en France, on considère à la légère. C'est comme un calembour, si vous voulez, un calembour par rapport à un mot d'esprit, c'est pas très intéressant, c'est pas jugé digne d'intérêt. Un comique, un stand-up, un Jamel fait pas l'objet d'une critique au même titre qu'une œuvre littéraire. Il existe une critique musicale, une critique de ciné, une critique artistique, mais pas de critique comique. Et voilà ce que je voudrais inaugurer.
Donner ces lettres de noblesse encore un petit peu plus à l'humour, ou en tout cas à cette forme d'humour, mais c'est de donner du contexte, évidemment, donner des références. Vous n'allez pas tout de même vous livrer à l'analyse sociologique et tout ce genre de choses, tout de même.
Non,
vous allez garder une certaine à la fois distance et un peu d'humour.
Oui, et je voudrais aussi faire en sorte qu'on puisse critiquer des choses où il y a pas mal d'autopromotion qui règne dans ce milieu comique. Il y a des gens qui ont pas l'habitude qu'on les critique, qu'on dit tout le temps que c'est génial, et puis il n'existe pas de vrais sites ou de journal qui soit consacré à ça. Il y a des sites qui existent, en fait, c'est des critiques de spectateurs. c'est des billetteries en ligne, c'est super intéressant, et on peut passer très longtemps à voir.
Vous ne le faites pas, ça, si vous le faites, cette interactivité.
Oui, bien sûr, tout le monde peut laisser, tous les internautes peuvent laisser des commentaires à la suite de chaque critique.
En sachant qu'il existe donc, vous avez institué une charte éditoriale criticomique.
Voilà.
Le mot essentiel de cette charte, c'est...
C'est indépendance regard critique sur quelque chose qui est rarement critiqué avec sérieux.
On vous critiquera, ne vous en faites pas. Criticomique.com, c'est référence à retrouver sur le site des visiteurs du jour. Julien Barré, merci d'être venu et puis bonne soirée.
Merci beaucoup de m'avoir
invité.
Bonne
soirée au spectacle ce soir. Les visiteurs du jour, on se retrouve. Tiens, on parlait d'interactivité, on va encore en parler dans une certaine manière dans une dizaine de minutes après les informations, puisque le consommateur est de plus en plus coproducteur du produit qu'il achète. À tout à l'heure.